public, avec la présentation d'une séance très modeste de 2 heures, à peine, qui a pour intérêt toutefois d'avoir été testée devant les étudiants. Disons que c'est à prendre comme un point de départ pour nos discussions ou une façon d'aborder à minima le sujet. Brièvement, le contexte pédagogique, je vais peut-être un peu raccourcir ça parce que ce n'est pas essentiel. Moi, j'interviens dans le DUT métier du multimédia et de l'Internet, ce qui fait que dans ce DUT, il y a des cours de théorie de l'information et de la communication, ce qui n'est pas le cas pour tous les DUT. Et notamment, on a un 3e semestre consacré spécifiquement à l'analyse des médias, dont le programme pédagogique incite à analyser et à décrypter les médias et mentionne explicitement la notion de propagande dans les contenus pédagogiques et aussi dans les modalités de mise en œuvre où on est invité à analyser des affiches de propagande ou des films de propagande. Donc bien entendu, ça fait que j'aborde la notion de propagande dans mes cours et suite aux attentats du 7 janvier 2015, il m'avait semblé important d'aborder une des incarnations actuelles de la propagande, une des incarnations actuelles, pas la seule bien sûr, la propagande djihadiste, et plus particulièrement une des formes de cette propagande, le djihad médiatique, puisque le cours porte sur les médias. Mais cette séance peut, me semble-t-il, s'intégrer également au cours d'expression communication, en particulier du 2e semestre en DUT, la plupart des programmes invitant à analyser l'argumentation et à analyser les médias, donc ça peut tout à fait entrer dans ce cadre. Alors, en préparant cette séance, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles, et c'est ces questions qui, ravivées par les événements de novembre, ont suscité l'organisation de cette journée d'études. L'une principalement était la question des supports. Est-ce qu'il faut ou non montrer des documents de propagande djihadiste ? Ma pratique habituelle, comme pour beaucoup d'entre nous, je pense, m'incitait à montrer les documents pour faire analyser aux étudiants ces documents, pour éprouver leur facilité, leur faculté d'analyse sur ces documents. Mais il y a à cela, bien sûr, des freins, la violence extrême de ces documents, et aussi la présence, l'utilisation d'une langue étrangère, d'une iconographie et d'une rhétorique religieuse que je ne maîtrisais pas. C'était aussi l'intérêt d'avoir une matinée d'éclairage aujourd'hui. Alors, la séance qui suit va témoigner d'abord d'un évitement de ces questions, mais en même temps, cet évitement, en me poussant à une généralisation, m'a poussé à faire une séance que je juge somme toute assez efficace, au sens où elle me semble avoir été bien comprise par les étudiants et pouvoir être utilisée facilement, avec bien entendu des aménagements que j'espère la discussion permettra d'aborder. J'ai fait un PowerPoint un peu chargé parce qu'il est destiné à la publication en ligne. Je vais commenter les points les plus importants. Ça se fait en une séance TD de 2 heures. Moi, j'avais fait précéder cela d'un point en cours sur la propagande, la naissance du concept, son utilisation durant les guerres mondiales et les réactions que cela avait suscité, en particulier aux États-Unis, mais c'est un préalable qui ne me paraît pas du tout indispensable. Donc, le cours commence par une phase de définition. Qu'est-ce que la propagande ? Il y a une petite vidéo en ligne, ça c'est des ressources que je pourrais mettre, il y a une petite vidéo en ligne sur le site de l'INA qui permet d'aborder ça. Et je pose la question aux étudiants sur la différence entre propagande et communication politique, différence qui n'est pas du tout évidente, hein, la frontière est poreuse, il y a une interrogation éthique là-dedans, donc je lance un petit peu le débat là-dessus. Le cours se passe ensuite en 2 volets, un premier volet sur la propagande nazie fondée sur l'analyse du film Le Triomphe de la Volonté, Leni Riefenstahl, qui va permettre aux étudiants, à partir de l'analyse d'extraits, de dégager des ressorts de la propagande. Et dans un deuxième temps, on réinvestit ces résultats dans l'analyse d'une propagande contemporaine, le djihad médiatique, en s'interrogeant là encore sur les ressorts de cette propagande et sur son efficacité, pour terminer par une synthèse généralisante sur ces 2 aspects, comment ça fonctionne et pourquoi ça marche, les hypothèses. C'est donc une démarche qui est inductive, donc on le sait, c'est une démarche pédagogiquement efficace, puisque les étudiants eux-mêmes essaient de définir les ressorts à partir d'un exemple et qu'on teste la généralité sur un deuxième exemple. Mais ça a un intérêt aussi rhétorique, puisqu'il s'agit aussi de persuader les étudiants que la communication djihadiste est une propagande. Or, en retrouvant de la propagande nazie à la propagande djihadiste le même fonctionnement, ça leur montre que c'est un discours de propagande. L'assimilation, l'analogie implicite du nazisme et du djihadisme, que je trouve par ailleurs, est disqualifiante, hein, et c'est aussi un ressort rhétorique. Parce que pour le moment, en tout cas, les étudiants sont tous persuadés que les nazis font de la propagande. C'est un accord pour le moment, en tout cas. Alors, dans le détail, donc je passe sur la phase de définition, puisque il me semble que les éléments sont assez faciles à trouver, pour parler du premier volet. Alors, je vais rappeler pour les enseignants de communication qui sont ici des choses qui sont évidentes pour eux. Hein, il ne s'agit pas de leur apprendre quoi que ce soit à ce sujet. J'indique juste ce que j'ai dit aux étudiants. Je commence par présenter le film, bien sûr, les circonstances du tournage, la réalisatrice, et je donne quelques éléments sur la conception hitlérienne de la propagande, puisque Hitler en parle dans Mein Kampf. Et j'analyse ensuite, de façon détaillée, deux extraits, parce que pour moi c'est un petit peu, enfin, une heure et demie de film de propagande nazie, je vous avoue que je trouve ça un petit peu indigeste, hein, personnellement. Donc la séquence du début, qui est très intéressante, puisqu'elle est très belle esthétiquement, donc c'est un intérêt de choisir celle-ci. Ce qui permet aux étudiants de voir à partir de cet extrait la séduction esthétique, il y a une beauté des images, il y a l'utilisation qui est tout à fait novatrice pour l'époque d'images aériennes, il y a une caméra embarquée dans l'avion, hein. Le rythme du montage, la musique, j'insiste beaucoup sur la musique parce que c'est intéressant pour le djihadisme ensuite. Hein. Et ce que je tâche de leur faire comprendre, c'est que cette séduction esthétique, elle porte un message idéologique implicite, qui est d'autant plus puissant qu'il est implicite. Deuxième grand point à retirer de l'extrait, c'est la mise en scène de la célébration du chef, avec la présentation, comment on nourrit le culte du chef par la mise en scène, Hitler étant à la fois grandi par la contre-plongée, par son omniprésence, et en même temps c'est très frappant, rendu sympathique par des gros plans sur des gestes familiers, et aussi par la mise en scène de l'adoration par les femmes, les petits-enfants, etc. On a, et cela c'est bien connu également, une insistance sur les symboles, la croix gammée, le salut nazi. Il s'agit à ce moment-là aussi d'installer une imagerie nazie, mais aussi sur des symboles du passé gothique de l'Allemagne. C'est plus difficile à décrypter par les étudiants, avec un mélange avec la croix gammée, par exemple, hein, qui vise à instaurer une continuité entre le passé et le nazisme. Et c'est aussi une célébration de l'Allemagne dans son histoire et dans sa supposée spécificité, hein, qui est une thèse nazie, et qui va faire contraste avec le cadrage explicite, hein, au début du film sur l'humiliation de l'Allemagne, on rappelle la fin de la Première Guerre mondiale, etc. Donc c'est un cadrage idéologique explicite qui influence bien sûr beaucoup la réception des images et souligne cette célébration de l'Allemagne. Je choisis ensuite un deuxième extrait qui, lui, va montrer le contenu idéologique explicite, avec des fragments de discours, en essayant de choisir un extrait qui soit à peu près compréhensible par les étudiants, et un discours qui va être soutenu, là encore, par les symboles, par les images, par la musique. J'ai pris aussi un extrait où on voyait très nettement l'aspect cérémoniel. Particulier, enfin pas particulier au nazisme, mais qui est très présent dans le nazisme, avec l'utilisation d'un caractère très solennel, la tentative d'utiliser les ressorts d'une religion. Donc c'est très frappant dans l'extrait que je propose là. Vous voyez des joyeux nazis chanter avec une pelle à la main. Puis j'ai choisi les pelles plutôt que les fusils, parce que voilà. Donc, avec tout cela, je tâche de faire dégager aux étudiants les ressorts de la propagande. Hein, je les aide, je les guide un petit peu. J'en dégage trois principaux. Donc, je leur demande quels moyens, quel fonctionnement de la propagande vous pouvez déduire de ce film. J'en ai distingué trois. Donc, la séduction, la mémorisation et l'appel à des valeurs du public. La séduction, c'est bien sûr la séduction esthétique, ça, ils le voient bien. Mais leur montrer que c'est aussi une séduction idéologique, hein, à la fois explicite et implicite. Ce que j'appelle une séduction idéologique explicite, c'est les promesses. On leur promet monts et merveilles à travers ce film. Mais aussi la séduction idéologique implicite, c'est que là-dedans que je range le culte du chef et la proposition de modèle. Le culte du chef comme séduction, puisque c'est proposer un modèle à admirer. Et aussi proposer des modèles séduisants auxquels on peut s'identifier, la mise en scène de la virilité des ouvriers en particulier, enfin, d'une Allemagne forte, d'Allemands sains, auxquels on peut avoir envie, dans lequel on peut avoir envie de se projeter. La mémorisation, là, c'est plus connu, enfin, c'est des étudiants, hein, ils le voient en général dans le secondaire, c'est l'importance des symboles, des slogans, mais aussi de la musique. Des chansons. J'ai pris un extrait justement avec des chansons parce que ça m'intéresse par rapport à la propagande djihadiste où ça se retrouve. Le dernier ressort, c'est celui qu'ils connaissent le moins et qui est pour moi, dans la perspective de l'étude plus globalement de la persuasion et de l'argumentation, le plus important, c'est l'appel à des valeurs. Alors, l'appel à des valeurs, c'est absolument pas propre à la propagande. On va retrouver ça dans toute persuasion. Là, c'est des notions de rhétorique fondamentale. On va persuader parce qu'on se retrouve sur des valeurs. On adhère à un parti politique, certes parce qu'il y a des promesses pragmatiques qui nous intéressent, mais aussi parce qu'on rejoint une certaine vision du monde. Donc, c'est plus largement propre à la persuasion. Donc ici, il y a des propositions de valeurs qui sont d'ailleurs assez générales, puisque pour pouvoir être englobante, on a l'appel dans le film au patriotisme, à la justice, à l'union. Donc c'est ces valeurs-là positives qui sont proposées. Mais plus particulièrement, dans la propagande, on va retrouver la construction d'un mythe qui est simplement esquissé dans l'extrait, donc les étudiants ne peuvent pas vraiment le voir eux-mêmes sans aide, puisque le film met en scène le thème de l'union de l'Allemagne et insiste sur des postures physiques, la présentation d'Allemands sains, blonds, mais c'est suggéré. Donc là, il faut indiquer aux étudiants, s'ils ne s'en souviennent pas, que le nazisme propose d'aller vers une Allemagne mythique, un âge d'or qui s'inscrit dans la continuité d'un passé, lui, tout aussi mythifié, qui est représenté dans les extraits que je leur projette par l'insistance sur les monuments gothiques, la représentation d'une Allemagne pure et forte. Dans ce cadre, la construction d'un leader charismatique, c'est tout à fait important, puisque c'est celui qui va être capable de mener les adeptes vers cette terre promise. On peut esquisser là l'analogie, le cas échéant, avec une religion. En tout cas, c'est ce que le nazisme cherchait à faire, cherchait à obtenir. L'impact historiquement, donc je me suis appuyée là sur l'ouvrage que j'ai mis à l'écran, l'histoire mondiale des cinémas de propagande. On considère que le film, tout réussi qu'il soit, a eu un impact très très faible pour deux raisons. Déjà, c'est parce qu'il est de façon très évidente un film de propagande. Ça filme le congrès nazi à Nuremberg, donc l'affichage de cette question de propagande le rend peu efficace. Et on considère qu'il est peu efficace aussi puisqu'il entre à ce moment en contradiction avec le réel, la crise économique, c'est l'inverse qui est mise en scène, et aussi les lois antisémites qui sont promulguées cette même année en 1935. Donc les historiens considèrent que ça a eu un faible effet, ce film-là précisément. Je passe ensuite au deuxième volet. Alors, je commence bien sûr par des éléments de définition. Je définis le djihad médiatique, donc c'est l'idée de la guerre à travers les médias. Je définis aussi l'État islamique, puisque à cette date, en octobre, je m'étais concentrée sur l'État islamique. Apparemment, j'avais bien fait. Je me suis notamment appuyée sur divers documents, mais j'ai apprécié l'émission de France Culture que je vous ai mise, dont j'ai mis le lien à l'image, qui était assez riche, et j'ai supposé aussi que les étudiants de leur côté apprécieraient peut-être d'écouter une émission plutôt que de lire, puisqu'on sait que bien souvent lire c'est difficile. Là c'est France Culture, c'était peut-être un frein, je ne sais pas. Alors c'est là où on arrive à la question épineuse des supports, et je vous disais que j'avais choisi une stratégie d'évitement, puisque je ne suis pas partie des documents de propagande, je suis partie de documents analysant cette propagande. Le premier d'entre eux est un article d'Assiem El-Difraoui, et c'est pour ça aussi que je l'avais fait venir, parce que j'avais été très intéressée par ses travaux. J'ai choisi, parmi ces très très nombreux articles, j'ai choisi le djihad de l'image qui est paru en 2014, déjà parce qu'il était assez court, donc c'est toujours important. Et l'intérêt pour moi, c'est qu'il mettait bien en avant les ressorts de la propagande djihadiste en permettant de façon très nette de voir qu'on retrouvait exactement la même chose que dans le film de propagande nazie qu'on venait d'étudier. L'article met en avant la séduction par la forme, notamment l'importance des chants, la séduction idéologique aussi, la proposition de modèles séduisants, l'usage de symboles. Il y parle notamment, ce qu'il a esquissé ce matin, de l'utilisation du sceau du prophète ou de ce geste vers le ciel, désignant l'unicité de Dieu, et que ces symboles sont au service d'un grand récit, un mythe qui provient d'âge d'or, s'appuyant sur un passé mythifié. Donc le lien avec le premier exemple était très frappant. J'ai apprécié en particulier l'accent sur le mythe dans l'article, alors que, outre que dans des temps très lointains, j'ai fait une thèse qui parlait abondamment de cela dans un autre contexte. Je trouve que c'est très intéressant pour les étudiants, puisque c'est un des ressorts de la propagande qui est le moins connu, si on compare à l'usage des symboles, par exemple. Et je trouve, enfin, c'est un ressort à mes yeux particulièrement puissant. Le mythe, parce qu'il donne un sens, il propose une vision du monde, hein, c'est quelque chose qui est très séduisant, c'est un des piliers, selon moi, de l'efficacité d'une propagande, et en même temps, c'est ce qu'elle présente de mensonger. Donc c'est par ce biais-là qu'on va pouvoir, le cas échéant, détruire cette propagande. En même temps, c'est ce que je mettais, c'est que c'est difficile, hein, parce que ce mythe, il est implicite. Il faut le percevoir, hein, il faut avoir la culture pour être capable de voir qu'il est mensonger, mais une fois qu'il tombe, la propagande tombe. Et c'est là où, selon moi, les enseignants peuvent intervenir, justement, et je rejoins ce que disait Assia Maldifraoui sur la façon de contrer, selon moi, cette propagande. Par ailleurs, intellectuellement, je me demande si ce n'est pas finalement un des critères de reconnaissance de la propagande pour la distinguer, ce qui est toujours délicat, de la communication politique. Mais là, c'est tout à fait sujet à discussion et à réflexion. La question qui se pose alors, c'est pourquoi est-ce que ça fonctionne? Les étudiants sont assez étonnés en général que cette propagande djihadiste, qui finalement leur semble assez grossière pour beaucoup, pourquoi ça marche? La question est d'autant plus aiguë que je venais de voir avec les étudiants et qu'en général je leur fais étudier les théories, les différentes théories des effets des médias. Et en particulier, on venait de voir la théorie de Lazarsfeld qui souligne que les relations interpersonnelles ont plus d'impact que les médias eux-mêmes. Donc, si les médias n'ont pas d'effet fort, direct, pourquoi cette propagande, et en général la propagande, ça peut fonctionner? Ceux qui s'informent un petit peu, en outre, lorsqu'ils lisent le parcours de jeunes Français partant faire le djihad en Syrie, ils sont vraiment très étonnés en disant, mais ils sont bien naïfs, comment ils ont pu se faire avoir? Donc comment est-il possible que ça puisse fonctionner? Donc là, je pars encore une fois d'un biais, d'un intermédiaire. J'ai choisi ce documentaire-là, le documentaire d'Olivier Tosquer, Djihad 2.0, qui a plusieurs avantages. Il est disponible en ligne, donc c'est toujours la disponibilité, c'est toujours quelque chose d'important. Et il m'a intéressée aussi, puisque c'était un documentaire qui présentait beaucoup d'images de propagande djihadiste en les commentant. Donc pas de façon brute, mais toujours en les commentant et de façon assez abondante. Donc j'ai trouvé que c'était un outil pédagogique intéressant. C'est pas très long, ça dure 1 heure. Moi, comme j'essayais de tout faire tenir en 2 heures, j'ai choisi un extrême et en prenant, il suffit de prendre 3 heures et puis on peut montrer la totalité. Alors, le documentaire, l'extrait que j'ai présenté, avance plusieurs raisons de l'efficacité que présente cette propagande. Il souligne d'abord la jeunesse de la cible, l'exploitation de sa quête de sens, de sa méfiance aussi envers les adultes, et ça va tout à fait rejoindre la communication de Clémentine, hein, sur les théories des complots. On va vraiment agir là-dessus. En montrant l'exploitation des techniques de secte, donc c'est ce qui m'avait beaucoup intéressée en dialoguant avec Oriana Lorachi avant sa communication, et j'ai insisté pour ça, pour qu'elle vienne, parce que ça permettait bien d'éclairer cela. Deuxième grande raison, l'utilisation d'un lien avec le réel. Et ça, je pense que c'est très important pour nos étudiants. En effet, cette propagande utilise la guerre en Syrie, la condamnation de la part de beaucoup de jeunes, et pas seulement de jeunes, de l'attitude occidentale qui n'a pas soutenu la révolte envers Bachar al-Assad. Et parmi les jeunes qui s'informent, cette révolte me semble assez partagée, et en tout cas c'est revenu dans les discussions en disant mais oui, mais en effet, c'est pas normal, la guerre en Syrie, etc. Et je pense que c'est vraiment l'occasion, enfin qu'il faut pouvoir à ce moment-là ne pas éviter la question. Il ne s'agit pas de se mettre au service des positions d'un gouvernement, mais d'être capable de dialoguer. Je pense que c'est très important de façon informée, sans cacher ses éventuelles réticences, justement, avec les jeunes à ce moment-là. Parce qu'il s'agit aussi pour nous d'être des sources crédibles. Et j'ai trouvé que c'était l'occasion d'un dialogue à ce moment-là que j'ai jugé précieux. Donc je pense que c'est qu'il faut le faire. Le documentaire évoquait une adaptation à la cible, au code esthétique connu, on en a parlé ce matin. Le dernier point qui m'a beaucoup intéressée, c'était l'usage des réseaux sociaux. Puisque justement, là, dans les réseaux sociaux, on va retrouver cette utilisation d'une influence personnelle en établissant des relations de confiance, et cela d'autant plus facilement que très généralement, les étudiants ont une méfiance très forte envers les grands médias. et que servent d'ailleurs, et c'est problématique, que servent les cours d'analyse critique des médias. Donc moi, je me trouve à amener de l'eau du moulin à ce moulin, et d'accord, il faut le faire, hein, ils sont critiquables, mais il s'agit aussi de questionner enfin, de cette méfiance généralisée. Et c'est pour ça que j'étais très heureuse que Clémentine aborde ce sujet. Alors, je résume à la fin du cours les grands ressorts de la propagande. Pour gagner un peu de temps, je me permets juste de vous faire, de proposer la diapositive, puisque ça simplifie tout simplement ce que je viens de dire pour cadrer un peu les choses à la fin d'un cours. Et pareil, je cadre les raisons de l'adhésion à la fin. Pourquoi on adhère, par ignorance, par absence de sources d'information, aussi une situation de déstabilisation, de crise, qui peut être une crise, on peut parler de la crise de l'Allemagne, de la crise des valeurs occidentales, ou une situation de crise personnelle, la fragilité de la jeunesse. Et j'insiste un peu plus, toujours parce que les étudiants pensent moins à cela, c'est la rencontre avec des valeurs préexistantes, qui sont souvent des valeurs honorables, hein, le patriotisme, la recherche de la justice, la volonté de s'engager, mais qui vont être détournées et perverties. Et donc sur l'effet des médias, ce que je souligne, c'est que les médias ont un impact en proposant une vision du monde, mais que l'effet n'est pas direct. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fort, mais il n'est pas direct. Cela va rencontrer d'autres éléments, des éléments liés à la personne, des éléments liés à son groupe, à ses valeurs. Et c'est tout l'intérêt des réseaux sociaux, justement, de pouvoir inscrire cette propagande dans des relations interpersonnelles en s'appuyant, en créant des situations de confiance. Et on trouve tout à fait des situations d'embrigadement que Oriana Larachi nous expliquait ce matin. Alors, comment se prémunir? Là, pour le moment, je donnais des questions très simples. Il faut analyser, il faut s'informer, il faut se cultiver. C'est des conseils de prof. Voilà. Parce que c'est ça qu'on fait. Et je passe directement au bilan. Alors, là où je suis contente, c'est que les étudiants ont bien compris ce que je disais et les enseignants qui sont ici savent ce dont je parle. C'est pas si fréquent. Donc ils ont bien compris, je l'ai vérifié en devoir sur table, et ils ont répondu conformément à ce que j'attendais. Ça ne m'arrive pas si souvent. Alors, la limite, j'en ai même encore plus par rapport à ce matin, mais je vais déjà me contenter de celle-là et j'en mettrai d'autres après. C'est qu'on revient toujours à cela. Les étudiants n'ont pas analysé eux-mêmes les documents. Donc à partir de là, en dehors de ce que je dis, est-ce qu'ils seront armés face à ces documents de propagande? J'ai cadré certes fermement mon propos, je suis contente, ils ont compris, mais laissés à eux-mêmes face à des documents similaires ou des documents ou une propagande qui sera différente dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'ils sauront faire? Ça, je ne sais pas. Et plus particulièrement par rapport au contenu religieux de cette propagande. Les étudiants sont très démunis, me semble-t-il, par rapport à cela, déjà par inculture religieuse. Et aussi, pour certains d'entre eux, j'ai le sentiment que face au contenu de type de contenu religieux, il se produit chez eux une sorte de suspension du jugement critique. En disant, mais ça, c'est la religion, donc voilà, c'est chacun ses croyances. Et c'est une vraie difficulté, selon moi. La solution provisoire à laquelle je suis arrivée, c'est de proposer aux étudiants au deuxième semestre des exposés de culture religieuse qui se sont bien passés, mais j'ai pas. Aussi, les étudiants de multimédia sont des gens très pacifiques. Ça répond au moins à une inculture religieuse qui est massive. Et ça permet aussi, me semble-t-il, de lever un tabou qui est peut-être plus chez moi que chez eux, le fait de parler de religion, de parler de culture religieuse, et je me suis aperçue que ça se passait très bien et que c'était même intéressant. Ce que je rajouterais sans doute à l'avenir, ça serait peut-être un cours de cadrage pour avancer sur quelques notions peut-être, mais ça c'est à réfléchir, parce que je ne vais pas faire que cours sur la religion, ce n'est pas mon rôle. Donc qu'est-ce que je peux faire tenir dans une séance d'introduction qui serait pertinente pour orienter un petit peu la réflexion? Donc souligne dans le livre qui vient de paraître, Didactique de la communication 2, il y a un article très intéressant là-dessus de Nicolas Robert. Et je vous invite à le lire, parce que moi, il m'a beaucoup aidé, puisque justement, il m'a simplement montré que oui, on pouvait en parler et qu'il n'allait rien se passer d'horrible. Enfin, que c'était très. Enfin, voilà, c'est l'idée de lever un tabou et de parler ça assez sereinement avec les étudiants. Et je pense que les étudiants sont demandeurs. Enfin, je vous remercie de votre attention. on enchaîne tout de suite avec Clémentine Houx qui intervient à l'heure actuelle à l'IUT de Montreuil, hein, qui va bientôt changer d'IUT.